Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Au nom de Radio Classique, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne journée au travail ou en vacances et un grand merci pour votre écoute. Nous sommes le 6 août, il est exactement 8 heures.
8 heures, 9 heures, la matinale de Radio Classique. Avec Bernard Poirette.
Voici les titres du journal de Mélina Fachin. La stupeur et la désolation, bien sûr, toujours à Beyrouth, deux jours après la double explosion cataclysmique qui a fait au bas mot 113 morts, mais selon plusieurs autres sources, on en serait déjà à 135 morts. En tout cas, il y a des dizaines de disparus. Les survivants tentent tant bien que mal de s'en sortir et les premiers éléments de l'enquête montrent que ce drame aurait clairement pu être évité. On le disait à l'instant, il va faire extrêmement chaud ces prochains jours et cela augmente encore le risque d'incendie. Hier, les Bouches-du-Rhône ont dû gérer plusieurs départs de nouveaux feux. Le Japon commémore aujourd'hui les 75 ans de la bombe d'Hiroshima. Le risque nucléaire est-il toujours d'actualité? Nous poserons la question dans ce journal à un expert. Et puis à la fin de cette édition, le vélo. Le vélo, c'est l'un des grands gagnants de la crise du coronavirus, qu'il soit totalement mécanique ou électrique, si bien qu'il devient de plus en plus compliqué de s'en procurer.
Radio Classique.
Mélina Fachin, donc ce matin, il faut le constater, Beyrouth est à moitié détruite et continue de compter ses morts.
Deux jours après les deux terribles explosions dans le quartier du port, le dernier bilan fait état d'au moins 135 morts et plus de 5000 blessés. Et le nombre de personnes disparues est plus élevé que celui des morts, a déclaré le ministre de la Santé libanais. Le pays a déclaré l'état d'urgence pour deux semaines. Les dégâts sont estimés à plus de 3 milliards de dollars. Sur place, la population tente de faire face au chaos. Camille Schmitt.
Abasourdi, Hadi erre dans les rues de son quartier, dans le sud de Beyrouth. Il ne reconnaît plus rien. Face à lui, c'est une scène de guerre.
Quand je suis arrivé dans mon quartier, le sol était couvert de verre, tout était détruit. Dans ma maison, les vitres sont brisées, les murs sont fissurés, le plafond est craquelé. Mais Dieu merci, elle tient encore debout et je peux y rester.
Selon le gouverneur de la ville, plus de 300 000 personnes se retrouvent à la rue. Dans ce chaos, les associations tentent tant bien que mal d'organiser l'aide à la population libanaise. Zakaya Koronfol travaille sur place au sein de l'ONG Amel.
On est encore en train d'évaluer plus exactement les dégâts, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont colossaux. Les écoles publiques vont être utilisées pour accueillir ceux qui n'ont plus où dormir et les associations locales tentent de mettre en place des centres d'hébergement.
Les hôpitaux ne sont pas épargnés. L'hôpital Saint-Georges, l'un des principaux de la capitale, a été dévasté. 13 personnes y ont été tuées. Et les établissements restés debout sont débordés, explique Zakaya Koronfol.
Les hôpitaux ont des difficultés à faire face au grand afflux de blessés. Alors pour les soulager, les ONG et plusieurs associations ont mis à disposition leurs centres médicaux pour au moins prendre en charge les blessures simples ou superficielles.
Elle appelle la communauté internationale à envoyer autant d'aide financière et médicale qu'elle le peut pour aider le pays à se relever de cette crise.
Justement, Emmanuel Macron vient de partir, il vient de décoller direction Beyrouth. La France a envoyé dès hier 3 avions militaires sur place. Du côté de l'enquête, il s'agit maintenant de comprendre pourquoi 2750 tonnes de nitrate d'ammonium étaient stockées dans cet entrepôt du port qui a explosé. Cela faisait visiblement des années que la marchandise se trouvait là, sans aucune mesure de précaution, Charles Bonner.
Oui, c'est la thèse privilégiée à ce stade. Le nitrate d'ammonium proviendrait d'un cargo russe contraint d'accoster à Beyrouth en 2013. Le navire est abandonné par son propriétaire et la marchandise est saisie par les douanes. Depuis 6 ans, elle est donc stockée dans un entrepôt alors que l'on connaît sa dangerosité. Les autorités du port et des douanes ont bien signalé le problème. À 5 reprises, la justice est saisie entre 2014 et 2017. L'actuel directeur du bureau des douanes pointe la responsabilité de la direction du port. En 2019, une enquête est menée par la Sûreté de l'État. Conclusion, ces 2750 tonnes de produits chimiques n'avaient rien à faire là. Il faut les déplacer, entreprendre des travaux de réparation. Mais depuis, rien n'a été entrepris.
Merci Charles Bonner. Parmi les milliers de blessés, on dénombre au moins 21 Français. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Parmi les morts, on apprend ce matin le décès de l'architecte français Jean-Marc Bonfils. Il vivait à Beyrouth.
Radio Classique, le journal. Mélina Fachin.
En France, Mélina, dans le sud-est précisément, l'incendie près de Martigues qui a ravagé près de 1000 hectares de garrigues est désormais maîtrisé.
Mais plusieurs autres départs de feu ont lieu hier dans les Bouches-du-Rhône, notamment près de Rognac, de Vitrolles et au nord d'Aix-en-Provence. Avec la sécheresse et le pic de chaleur de ces prochains jours, l'été 2020 est décidément celui de tous les dangers, préviennent les pompiers, et cela concerne toute la France, explique Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France.
C'est depuis maintenant près de 2-3 ans que l'on constate des feux d'espace naturel sur des parcelles agricoles, sur des zones jusqu'à présent pas forcément touchées par ce type de risque. L'Indre-et-Loire a été touchée, la Côte d'Or a été touchée, 5000 hectares ont brûlé juste avant la saison estivale 2020. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur l'ensemble du territoire. Le feu n'a pas de frontières. Le feu, aujourd'hui, on constate son évolution due à ce réchauffement climatique, l'assèchement des sols. C'est l'ensemble, on va dire, des zones qui, au préalable, ne semblaient pas destinées directement par des points de sécheresse conséquents, comme le sud aujourd'hui, qui sont aujourd'hui touchées par des feux d'espace naturel.
Le porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France au micro de Rémi Pfister pour Radio Classique. À cause de la nette hausse des températures aujourd'hui, les niveaux de pollution de l'air grimpent aussi. La circulation différenciée est décrétée à Paris, à l'intérieur de l'A86. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère 0, 1 ou 2 auront le droit de circuler.
Paris, où le masque va très certainement devenir obligatoire dans les tout prochains jours.
C'est en tout cas le souhait d'Anne Hidalgo. Ne manque plus maintenant que l'autorisation de la préfecture. Cela concernera les zones les plus fréquentées de la capitale, quai de Seine, parc ou encore les marchés ouverts. Sur celui porte de Champéret dans l'ouest de la capitale, on se prépare ou pas, Sarah Loubacouche.
Au milieu des étals de melons de ce marché découvert de la capitale, Michel fait figure de dilettante.
J'aime pas le masque.
Elle est l'une des rares clientes à ne pas arborer de masque, même si son port n'est pas encore obligatoire.
Tout le monde porte pas, hein. Les gens, même les vendeurs, ils n'ont pas des masques tous. Pas porter parce que c'est obligatoire. J'ai 70 ans, j'ai pas peur.
Mais la plupart des habitués joueront le jeu.
C'est pénible de mettre un masque, surtout quand il fait chaud. Mais bon, si c'est ça ou devenir malade, ça fait partie des choses qu'on peut accepter, quoi.
Dans un marché ouvert à l'heure actuelle, peut-être que c'est pas une mauvaise idée. C'est quand même un espace relativement encombré, alors je comprends, surtout qu'il y a quand même des gens âgés.
L'obligation du port du masque, une bonne nouvelle pour Jamila qui gère un stand de fruits et légumes, même si elle redoute l'attitude de certains clients.
Moi, je leur dis gentiment, s'ils veulent pas, je vais pas insister pour qu'ils me cassent la gueule. J'arrête là, ils feront ce qu'ils veulent. Mais je lui ferai la réflexion, s'il vous plaît, mettez votre masque. Sûrement, il y a des gens qui vont nous envoyer balader, ça c'est vrai. On va s'attendre à ça.
Pour son collègue Hakim, poissonnier sur le marché, hors de question de rappeler aux clients de porter le masque.
Mais c'est pas à nous à faire la loi après. Hein. Donc, il faut qu'il y ait la loi. Il y a des gens qui sont habilités à faire respecter la loi. Il faut mettre le dispositif qui vient juste derrière.
S'il est adopté, ce dispositif pourrait être étendu à plusieurs départements limitrophes de Paris.
Notamment la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine ou le Val-de-Marne. Merci Sarah Loubacouche. Bonne nouvelle dans les hôpitaux, le nombre de patients en réanimation est à nouveau en très légère baisse après 2 jours de hausse. 9 nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures à l'hôpital.
C'était il y a 75 ans, jour pour jour, le bombardement nucléaire d'Hiroshima.
Le 6 août 1945, en moins d'une minute, 80 000 Japonais étaient tués, 10 km carrés réduits en poussière par la première bombe atomique de l'histoire. La deuxième, c'était 3 jours plus tard à Nagasaki. Depuis, cette arme n'a plus jamais servi, mais selon Benoît Pelopidas, chercheur à Sciences Po et fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires, le risque de conflit est toujours d'actualité.
Le danger relatif aux armes nucléaires n'a jamais été aussi élevé auparavant. Au cours des 10 dernières années, ce qui s'est passé, c'est d'abord un regain de tension entre les puissances nucléaires, mais aussi la relance de programmes massifs de modernisation des arsenaux nucléaires qui va étendre leur durée de vie pour plus d'un demi-siècle. La plupart sont très largement plus destructrices que la bombe qui a explosé sur Hiroshima il y a 75 ans. Et la vitesse de ces missiles rend impossible la protection des populations.
Benoît Pelopidas, chercheur à Sciences Po, au micro d'Alexandre Ravasi. La guerre est à nouveau déclarée entre Donald Trump et les réseaux sociaux. Facebook et Twitter ont sanctionné hier une vidéo du président américain. Vidéo dans laquelle il affirmait que les enfants étaient, je cite, presque totalement immunisés contre le coronavirus. Facebook et Twitter dénoncent de fausses affirmations. Aux États-Unis, toujours à cause du coronavirus, Joe Biden annule sa venue à la convention démocrate qui aura lieu dans 10 jours. Il devait y être officiellement désigné candidat à la Maison-Blanche contre Donald Trump. Donald Trump qui pourrait lui aussi prendre la même décision et endosser les couleurs républicaines depuis la Maison-Blanche.
Et bien sûr, de cela, nous reparlerons tout à l'heure dans la note américaine avec Laurent Saïm, juste avant 8h30. Voici l'un des rares points positifs de l'épidémie de coronavirus. Le vélo, la bonne vieille bicyclette à le vent en poupe.
Que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie, c'est devenu vraiment la grande mode. En France, les ventes de bicyclettes ont doublé en mai et en juin par rapport à l'année dernière. C'est surtout les citadins qui s'y mettent et du coup, les magasins de vélos sont parfois en rupture de stock. Émilie Vallès l'a constaté dans une boutique du 15e arrondissement de Paris.
C'est le cinquième magasin que visite Mortaza, client parisien, et impossible de trouver le VTT qu'il recherche.
Ça fait 2 mois depuis le déconfinement, je cherche un vélo, mon chauffeur. Je suis déçu, hein, franchement, et c'est l'été, c'est l'occasion de faire le vélo en plus.
Et le vendeur lui laisse peu d'espoir sur une livraison prochaine.
Là, les stocks sur les vélos entrée de gamme, on est pour début d'année 2021. Quoi.
C'est un client perdu de plus, se désole Guillaume Benatar, gérant de cette boutique Culture Vélo.
Chaque jour, en fait, on doit rater 2-3 ventes de vélos, ce qui est absolument énorme. En fait, il n'y a plus de stock. Tout ce qui est vélo tout-terrain, vélo tout-chemin, tout ce qui est vélo enfant, tous ces vélos-là, c'est très très compliqué. On voit aussi que les stocks commencent à être tendus sur tout ce qui est équipement, même certaines dimensions de chambre à air.
On fait face à une demande inédite, explique Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, organisation professionnelle du secteur, alors que la production, elle, a été ralentie, d'où la pénurie.
Il y a à peu près 50% des composants qui viennent d'Asie, essentiellement les tubes, essentiellement les cadres. Et la crise sanitaire a touché en premier lieu l'Asie. Plus aucun conteneur ne venait en Europe. Et puis, n'oublions pas quand même qu'en mars, toutes les usines ont été fermées.
Ce professionnel estime que la situation pourrait quand même s'améliorer en septembre, les usines ayant repris et augmenté les cadences.
Un reportage d'Émilie Vallès pour Radio Classique. Vous avez un vélo, bien sûr.
Mais
Vincent,
que c'est
le technicien, il vient à vélo travailler à 5 heures
je
du matin.
Je pense que mon espérance de vie sur un vélo est approximativement de 6 minutes.
Oh là là, mais non, mais ne soyez pas défaitiste. Merci beaucoup, en tout cas. Revenez à 8h30 pour le rappel des titres ce matin sur Radio Classique. Il est 8h11 exactement. Bienvenue si vous prenez cette matinale en marche. Le destin de la députée en marche, justement, Aurore Berger, intéresse beaucoup l'éditorialiste politique Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Ce sera dans une minute. Et au-delà, le généticien Axel Kahn, actuel président de la Ligue contre le cancer, sera notre invité. Avec l'actualité en cours, je ne doute pas un instant qu'il cogite à plein régime.